Ah, c'est entre 4h et 5h du matin. La grande finale demain vendredi, c'est entre 12h et 13h. FranceBleu.fr pour les images de Touchard. Il est 13h, voici l'Orange Courgette. Wendy Bouchard.
Ma France sur France Bleu. Wendy Bouchard.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Ma France. Alors que le gouvernement donne des gages aux oppositions pour éviter la censure, des concessions seraient faites notamment sur la hausse de la taxe sur l'électricité. 868 postes supprimés chez Valeo qui ferme deux de ses usines dans les Yvelines et dans la Sarthe. Les retrouvailles à la une entre la chienne Amalka disparue il y a 9 jours sur le tarmac de l'aéroport de Roissy et sa maîtresse. L'animal a été retrouvé sain et sauf. Dans vos régions, le lancement de la campagne des Pères Noël verts. On vous en parle. Le coup d'envoi du marché de Noël à Strasbourg hier et le programme des prochaines francopholies à La Rochelle qui nous projetteront au mois de juillet. À 13h15, je reçois un grand sportif et aventurier, le skipper Maxime Sorel. Il a été contraint d'abandonner cette édition du Vendée Globe, mais il nous rappelle qu'il a bouclé un tour du monde et une ascension de l'Everest. Mon double Everest, voilà ce qu'il écrit dans un livre où il raconte ses deux expériences. Le gouvernement de Michel Barnier parviendra-t-il à éviter la censure en cas de recours au 49-3 ? Une motion, en tout cas, que n'hésitera pas à voter François Hollande, député de Corrèze, autour du budget de la sécurité sociale. Ce matin, le ministre de l'économie, Antoine Armand, a parlé d'heures graves et supplié le PS de ne pas censurer le gouvernement, quitte à faire quelques concessions pour amadouer également le Rassemblement national, Pierrick Baudeau.
Dernière main tendue en date, elle est signée Antoine Armand. Ce matin, chez nos confrères de BFM TV, le ministre de l'économie et des finances confirme que le gouvernement pourrait revoir sa taxe sur l'électricité.
Le geste sur l'électricité, nous y sommes prêts. Il doit pas se faire à n'importe quel prix. Il doit se faire en cohérence avec le budget que nous portons, parce que si nous dépassons toutes les cibles budgétaires, ça sert plus à rien de dire qu'on redresse les comptes.
Une annonce qui hérisse plus qu'elle n'amadoue les troupes de Marine Le Pen. Il faut arrêter de parler de gestes, s'agace le monsieur budget du RN, Jean-Philippe Tanguy. On parle de l'argent des Français, pas de celui du gouvernement. Le député rappelle que le budget est un équilibre global. Il n'y a pas une ligne rouge, mais plusieurs lignes rouges, martèle de son côté Marine Le Pen. Il en faudra donc plus pour convaincre le Rassemblement national de voter le budget et d'épargner le gouvernement. En attendant, l'extrême droite fait monter la pression. Le groupe RN à l'Assemblée organise cet après-midi une réunion extraordinaire pour parler finances et motion de censure.
Un nouveau coup dur pour l'emploi après Michelin ou Auchan. La direction de Valeo, l'équipementier automobile, a annoncé qu'elle comptait supprimer près de 900 postes en France. 8 des sites français sont concernés. Celui de la Suze sur Sarthe va même être fermé. 300 personnes se retrouveront donc sans emploi. Des effectifs réduits chez Valeo en Mayenne, en Haute-Loire, à Reims, à Laval, à Limoges et Amiens, où une centaine de salariés sont concernés. L'annonce a été faite hier après-midi au syndicat. Et Pierre-Antoine Lefort, pour France Bleu Picardie, on ne s'attendait pas à des coupes si lourdes.
Oui, c'est un carnage humain, souffle un syndicaliste. D'abord, un plan de départ volontaire pour 50 opérateurs de production et puis un PSE, c'est-à-dire des licenciements économiques pour 47 techniciens et ingénieurs. 97 postes au total, rayés des effectifs. Alain Van Est, délégué CGT, fait les comptes.
Là, on était 768, on fait la soustraction, donc il va rester quoi, 665 personnes. Et si ça continue, à long terme, on ne sait pas quoi.
Surtout que l'an dernier, le site amiénois a déjà connu un plan social, 89 postes supprimés et une partie de l'activité délocalisée en Turquie. Un plan social qui n'est même pas terminé. 4 salariés ne sont pas encore partis de l'entreprise. Freddy Leonardi, élu CGT au comité social et économique, n'arrive pas à cacher sa colère.
Ce sont des choix industriels. Il y aurait moyen de garder ça ici. N'oublions pas que tous les produits qui s'en vont chez Valeo en Turquie ou à Fuenlabrada. Donc ça reste du Valeo ou en Pologne. Tous les brevets qu'on fait ici, vous savez, on a un centre de recherche et de développement. On donne beaucoup d'argent public, mais derrière, c'est produit à l'étranger. Il n'y a aucune contrepartie, il n'y a aucune condition.
Les négociations entre direction et syndicats doivent débuter dès demain.
Et au niveau national, ce sont 868 postes qui sont donc supprimés par Valeo. Les agriculteurs des Alpes-Maritimes sont entrés dans la mobilisation ce matin à Nice, où ils ont déversé de la laine et du fumier. Toujours les mêmes revendications contre les traités du Mercosur, mais aussi des doléances très locales sur la gestion de l'eau. À Paris, une centaine d'agriculteurs se sont rassemblés devant l'INRAE, Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. L'établissement a été clairement pris pour cible, Lauriane Delanoë, et il demande même sa fermeture.
Il fait encore nuit noire quand ces agriculteurs comme Nicolas sortent des parpaings de leur camionnette et érigent un mur devant l'INRAE.
C'est de montrer qu'ils ne servent à rien, donc ça sert à rien de les laisser ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont déconnectés de l'agricole.
Cet institut de recherche a notamment pour mission de trouver des solutions pour remplacer les produits phytosanitaires interdits et ainsi protéger les cultures. Mais Cyril Millard, le vice-président de la FDSEA en Seine-et-Marne, assure ne pas voir d'avancée.
Moi, ça fait 20 ans que je ne sais pas ce que fait l'INRAE. La noisette va disparaître, la salade est en péril, la betterave va disparaître aussi, donc le sucre de betterave. Tout ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on a besoin de solutions. L'INRA, quand elle a un budget d'1 milliard, ça doit donner des solutions aux agriculteurs.
La centaine d'agriculteurs laisse le mur de parpaing devant l'INRAE et file à Maison Alfort devant l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'ANSES donne les autorisations pour utiliser ou non les produits phytosanitaires et elle en interdit trop, d'après Pascal Verriel de la FDSEA 77.
L'ANSES doit arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous mettre des interdictions.
Une délégation des deux syndicats a pu le dire en face au directeur de l'ANSES. À la sortie de cet échange, Damien Greffin, le président de la FNSEA en Ile-de-France, est plutôt satisfait.
C'est quelqu'un qui est plutôt à comprendre finalement les problématiques qui se posent à l'agriculture. Néanmoins, il est dans son couloir de nage. En fait, on a l'INRA dans son coin qui peine à trouver des solutions et on a l'ANSES qui, dans son coin, regarde de quelle manière on ne va pas intoxiquer les Français. Il faut, à mon sens, que ces agences se parlent.
Le message est donc passé et le dialogue noué avec l'ANSES. Mais ces agriculteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs promettent de poursuivre leur mobilisation dans les prochains jours.
Voilà pour cette double action à Paris des agriculteurs sur les agences de l'État. Patrick Balkany demande une remise de sa peine de 10 ans d'inéligibilité pour pouvoir se représenter à Levallois pour les municipales de 2026, ville dont il a été maire pendant 30 ans. Je rappelle que Patrick Balkany et son épouse ont été reconnus coupables de fraude fiscale et de blanchiment. C'est aujourd'hui que l'on devrait connaître le patron des Jeux d'hiver 2030 qui se dérouleront dans les Alpes, l'équivalent de Tony Estanguet pour ces Jeux d'hiver. Le nom de Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon, circule avec insistance comme étant le candidat idéal. Une réunion avec Michel Barnier aujourd'hui pourrait être conclusive. La belle histoire du jour, ce sont les retrouvailles entre la chienne Amalka et sa maîtresse. Une jeune chienne de 2 ans qui vagabondait depuis 9 jours sur le tarmac de l'aéroport de Roissy après s'être enfuie de la soute d'un avion Air France. De très importants moyens ont été mis en œuvre pour la retrouver et ce fut le cas dans un parc de Dammartin en Gouëlle à 2 km de l'aéroport. L'animal retrouvé sain et sauf qui s'est jeté dans les bras de sa maîtresse, une jeune touriste tchèque de 29 ans qui logeait depuis à Roissy et qui a été aidée dans sa quête par Air France, par les pompiers, les services de l'aéroport et l'association Cats in the Air qui recherche les animaux égarés ou abandonnés près des tarmacs. Karine Sorlin est bénévole pour cette association. Elle a assisté aux retrouvailles et elle en est encore très émue.
On m'a appelée ainsi que la cliente. Donc un agent Air France a récupéré la passagère qui était à l'hôtel. Moi, je suis allée sur place et puis à ce moment-là, là, c'était magique. La passagère Misha s'est accroupie, elle a appelé tranquillement sa chienne. Donc la Malka, elle a dressé les oreilles, elle a mis peut-être 15 secondes a vraiment réalisé que c'était sa maîtresse. Et après, elle a couru dans ses bras. Et là, c'était magique parce que tout le monde pleurait. La petite Amalka, elle couinait, elle était contente. Elle a eu à sauter dans les bras. C'était vraiment... Depuis le début, je suis avec Misha et on avait très peur de ne pas réussir à l'attraper, sachant que demain, elle devait repartir à Dallas. Donc, on s'était dit que c'était notre dernière chance aujourd'hui, ensemble. Parce que sinon, on aurait continué les recherches, mais ça aurait été plus difficile, évidemment, sans sa propriétaire.
Voilà, très joli dénouement autour de cette chienne égarée, avec ce témoignage recueilli pour France Bleu par William Delesseux. Il est 13h09.
Ma France, l'actu sur France Bleu, au cœur des territoires.
Dans Ma France, on vous raconte l'actualité au plus près de chez vous, avec hier la remise des prix pour le concours Talent des Cité qui a récompensé notamment les jeunes entrepreneurs issus des quartiers populaires. C'est un duo de Marseillais, Wassim Benouis et Johan Ravel, qui ont reçu à l'Élysée le prix Radio France. Ils ont créé Studiava, une sorte de Tinder de l'orientation, qu'ils ont conçu sur le modèle d'une application de rencontre et qui propose aux lycéens des formations post-bac adaptées à leur profil. Nicolas Piquet.
Sous les dorures et les lustres de la salle des fêtes de l'Élysée et sous les yeux du président de la République, les deux Marseillais sont appelés sur scène pour recevoir leur trophée.
Wassim Benouis et Johan Ravel pour Study Ava.
Wassim Benouis, col roulé noir, veste grise, prend le micro avec aisance.
Alors nous, on débarque d'une ville connue pour son soleil, ses cigales et son accent chantant. Vous l'avez reconnu, c'est Marseille.
Mais une ville où les jeunes ont aussi des difficultés pour trouver un métier, poursuit-il.
Aujourd'hui, un jeune sur deux a des doutes, hésite et peut accompagner sur ses choix d'orientation.
Et c'est pour ça que les deux amis ont créé Studiava. Après la cérémonie, Wassim Benouis sort son téléphone pour présenter concrètement l'application.
Donc on rentre ses informations, donc ses notes, où est-ce qu'on souhaite étudier après le bac. On a des petites questions sur les soft skills. Qu'est-ce que tu fais le samedi? Ah bah ok, je suis capitaine de mon équipe de football. Super, leadership. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Je garde mes petits frères à la maison. Ok, responsabilité. Tout ça, on les récupère et on fait matcher tout ça dans la machine avec des formations post-bac. C'est le Tinder d'orientation. On aime bien le présenter comme ça. Et on fait pas correspondre avec l'âme sœur, mais on fait correspondre avec l'avenir.
Une solution créée l'année dernière. Johan Ravel raconte l'origine du projet.
En fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux des parcours. On est tous les deux ingénieurs, mais qu'on n'était absolument pas passés par les mêmes voies. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les jeunes, il faut qu'ils arrivent à établir une stratégie d'orientation. Et c'est quelque chose qui, du coup, nous a mené à monter ce projet tous les deux.
L'application a déjà convaincu 4000 jeunes. Et grâce à ce prix, les deux entrepreneurs rentrent à Marseille avec l'espoir de continuer à grandir. Leur objectif, accompagner 10 000 jeunes d'ici l'année prochaine.
Avec Studiava, sorte de Tinder de l'orientation, comme ils en parlent, ces lauréats. La liste complète d'ailleurs des lauréats des talents des cités est à retrouver sur talents au pluriel des cités.com. Dans l'actualité encore, le lancement à Paris d'une campagne de don du sang assez originale. C'est un célèbre influenceur sur X, son pseudo Arcunir, qui a eu l'idée de s'associer avec l'établissement français du sang pour réunir 4000 donneurs en 4 jours. Son défi, c'est d'établir un record d'Europe de don du sang et de sensibiliser aussi de nouveaux donneurs plus jeunes à partir de 18 ans. Victor Vasseur.
Et sur ce point, le pari est réussi. La vidéo d'annonce de l'opération cumule près de 6 millions de vues.
Alors imaginez si des centaines, non, des milliers de personnes se réunissaient dans un seul et même objectif. Sauver des vies, 4000 donneurs, 12 000 vies, que l'on peut sauver tous ensemble.
Ce matin, il reste encore 350 créneaux de disponibles. Mais pour Florian Grippon, alias Arcunir, battre le record d'Europe n'est pas le plus important.
Ce qu'on aimerait tous, c'est que des gens voient ça et... Par exemple, pour les gens qui iraient donner leur sang là ce week-end, ils se disent « bah en fait, maintenant je connais le chemin de la maison, c'est super simple et je peux y retourner » et que ça devienne des données réguliers parce qu'il y a un vrai problème autour des jeunes qui ne donnent pas leur sang.
Seulement 4 Français sur 100 participent à des collectes. C'est insuffisant, estime Guillaume Duchaffaut, le directeur général de l'EFS. Il rappelle que 30% des donneurs ont moins de 30 ans.
Mais on a besoin d'en avoir davantage et qui s'engagent sur la durée. En fait, la courbe se casse après 30 ans, c'est-à-dire que les donneurs viennent un petit peu moins, entre 30 et 45, 50 ans, puis ils reviennent ensuite. Et donc nous, notre enjeu, c'est de faire rentrer plus de donneurs dans le système et surtout de les fidéliser sur la durée.
Ces 4000 dons sont d'autant plus nécessaires que la fin d'année est une période critique pour l'EFS où les stocks de sang sont faibles.
Et si vous avez plus de 18 ans, que vous pesez plus de 50 kilos, que vous êtes en bonne santé, vous pouvez vous aussi donner votre sang. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'établissement français du sang. Vous allez commencer à croiser les brigades des Pères Noël Vert du Secours Populaire. Ils lancent leur campagne et occupent le terrain jusqu'au 31 décembre. Par exemple, hier, ils ont invité 4000 enfants et leurs parents d'Île-de-France, des départements alentours, de l'Aube ou du Pas-de-Calais pour une représentation à Paris au Cirque Phénix. D'autres actions, évidemment, ont lieu tout au long du mois de décembre, comme l'explique Catherine Lufroy, elle est membre du Bureau National du Secours Populaire.
Les Pères Noël Verts de Secours Populaire, ce sont tous les bénévoles de France qui œuvrent afin que Noël n'oublie personne. C'est un moment d'exclusion pour toutes nos familles que l'on accueille tout au long de l'année. Et on se débrouille, on collecte tout au long du mois de décembre afin que tout le monde puisse avoir un Noël correct. Dans toute la France, il y aura des libres-services de la solidarité avec distribution de jouets aux parents afin que ce soit eux qui fassent Noël avec leurs enfants. Avec colis festifs, avec repas festifs. On fait aussi des paquets cadeaux pour gagner des sous. On fait des braderies, on fait plein d'activités. On va tout faire, tous les bénévoles de France, pour que Noël n'oublie personne et que toutes les familles aient quelque chose au sapin.
Et puisqu'on parle de Noël, à Strasbourg, le plus grand marché de Noël de France a ouvert hier pour un mois avec son sapin de 30 mètres de haut. C'est 300 chalets répartis sur la grande île de la capitale d'Alsace qui, pour ses fêtes, a accueilli l'an passé plus de 3 millions de visiteurs. Enfin, un peu de réjouissance en ce mois de novembre et en attendant l'été, puisqu'on connaît une partie de la programmation 2025 des Francofolies. La 41e édition du Festival de La Rochelle se tiendra cette année du 10 au 14 juillet, avec toujours à la une de grands artistes francophones et une variété de styles. Annel Gagnon.
Oui, et il y aura d'abord les grands noms, ceux sur lesquels chaque génération est capable de fredonner un air.
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes.
Celui-là, par exemple, car Véronique Sanson sera bien l'une des têtes d'affiche, tout comme Jean-Louis Aubert. On verra aussi des têtes plus jeunes, mais tout autant écoutées, Julien Doré, Clara Luciani, Oshi et même Philippe Catherine. Certains noms qu'on n'avait pas vu venir, Jean-Paul Rouve, le célèbre Jeff Tuche du grand écran, est lui attendu sur la scène de la Salle Bleue.
Et moi c'est Tuche, avec un T, comme Taylor.
Ou encore des artistes qui ont fait de longues pauses avant de renaître de leurs cendres, le groupe star des années 2000, Kyo, sur lequel on a tous accordé. Les Franco qui n'oublient pas la scène rap et hip-hop en invitant des artistes qui déclinent la langue de Molière comme personne. Hamza, O'Boy, SDM du côté des rappeurs masculins, mais aussi Ronisia, étoile montante de la pop urbaine française. C'est le mythique groupe IAM qui clôturera la dernière journée. Nul doute que plusieurs générations viendront y danser. Le Mia.
Les Francofolies, oui, édition 41e édition 2025 à partir du 10 juillet à La Rochelle.
Ma France sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Dans Ma France, il est 13h15, nous sommes en direct et on aime partager avec vous, vous le savez, des récits d'aventuriers, la soif du dépassement de soi, quels que soient les éléments d'ailleurs. Sur mer, nous qui suivons la course du Vendée Globe, surnommée l'Everest des mers, un tour du monde en solitaire et sans escale qui a été contraint d'abandonner l'un des 40 skippers au départ cette année. Et nous sommes, nous, ravis de vous recevoir néanmoins. Bonjour Maxime Sorel.
Bonjour.
Et oui, après 5 jours de voile, vous êtes victime d'une blessure très sévère à la cheville qui explique que vous entrez encore dans ce studio avec des béquilles. Vous comprenez très vite que vous allez devoir renoncer. Quelques jours après cet abandon, maintenant que vous êtes revenu sur la terre ferme, comment vous allez, Maxime Sorel?
Ben, ça va bien. C'est sûr que je ne m'attendais pas à être là, clairement. Beaucoup de frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Normalement, c'est 2 mois et demi. On ne s'attend pas du tout, après 5 jours de course, à s'arrêter. Une blessure qui grandit pendant ces 5 jours de course et la douleur est telle qu'on n'a pas le choix, il faut abandonner, quoi.
Alors ça, on comprend. C'est le jeu, c'est le coup du sort. C'est un sport très physique, très mécanique aussi, où il faut avoir l'entière aptitude pour pouvoir justement gérer toutes les avaries possibles, ce qui n'était plus le cas pour vous.
Ouais, c'est ça. Alors je fais des tas de défis, donc en préparation physique, normalement on était prêt, enfin ça c'est sûr qu'on était prêt, on pouvait pas prévenir toutes les blessures, celle-ci est complètement extérieure, donc c'était vraiment impossible. On s'attendait plus à une casse mécanique éventuelle auquel on se préparait. Là j'ai un ligament rompu, un œdème osseux, une double entorse en gros, plus une fissure, donc clairement c'était pas jouable de continuer et j'aurais pu avoir des séquelles irréversibles.
C'est ça, vous êtes arrêté au bon moment, il y a eu la raison, il y a eu aussi l'assistance médicale qui vous a fait comprendre qu'il fallait arrêter.
Ouais, c'est ça. Dès la deuxième nuit, j'ai mon avarie et la douleur grandit. Je monte au mât parce que j'avais des problèmes avec une voile. Donc, je monte au mât dans des conditions assez dantesques et la douleur fait que grandir, ça fait que enfler. Et donc, l'assistance médicale du Vendée Globe est quand même assez efficace là-dessus. C'est que, ben voilà, ils m'ont posé la question, est-ce que je me sentais capable de faire le Vendée Globe à une jambe? Et clairement, ça voulait dire qu'il fallait s'arrêter.
Ouais. Vous lâchez à ce moment-là un rêve, celui de finir un Vendée Globe, des années de préparation. Mais encore une fois, c'est le risque qu'on prend, Maxime Sorel, quand on se lance dans une telle course au large, sans assistance, sans escale.
Ouais, tout à fait. Les chiffres, c'est un bateau sur deux qui abandonne. Nous, on a fait le Vendée Globe en 2020.
Dixième.
On a réussi à le finir déjà, donc c'était une première victoire pour nous. On y allait plutôt là pour jouer la tête d'affiche éventuellement le top 5. Donc voilà, c'était une autre expérience avec un bateau de dernière génération, qui vole. Donc on y allait pour autre chose. Et voilà, malheureusement, ça se termine comme ça, mais il faut être prêt à accepter à la fois d'abandonner dans le sport, mais là encore plus sur un sport mécanique.
Alors je parlais du marin, du skipper que vous êtes, Maxime Sorel, votre bateau, votre Imoca, il est dans quel état lui aujourd'hui?
Il va plutôt bien, il est en train de revenir là par la mer avec les équipes techniques, il devrait arriver ce soir à sa base à Concarneau. Donc voilà, maintenant on va l'hiverner comme chaque fin d'année, un peu plus tôt que prévu malheureusement, mais on va se concentrer sur la suite et prochain objectif, ce sera le Vendée Globe dans 4 ans avec plusieurs courses de préparation avant.
Ouais, j'ai à côté de moi ce livre pour lequel vous êtes aussi
aussi notre invité Maxime Sorel, mon double Everest chez Gallimard. Vous qui avez gravi l'Everest, on va en parler, et qui avez fait cet Everest des mers, ce tour du monde, ce Vendée Globe. Vous dites dans ce livre, souvent, nous quand on est sportif, on est dans le souffle. Et parfois, on nous laisse pas le temps de souffler, on est tout de suite dans un autre enjeu, dans un autre défi. Mais c'est une pression que vous vous mettez pas mal vous-même aussi.
Ouais, alors j'ai soif de défi, j'aime pas rien faire à terre, alors encore moins en mer. Et c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées dans la tête, j'ai envie de les réaliser. Je réalise globalement mes rêves. Et c'est vrai que je m'assoif de plein de défis. Donc, je suis toujours en train d'imaginer, même pendant que je réalise un défi, en train d'imaginer lequel je pourrais faire.
Ouais, vous qui êtes par ailleurs entrepreneur en génie civil, Maxime Sorel, à la ville, si j'ose dire. Vous parlez de la force mentale dans ce livre. Comment, encore un petit mot sur le Vendée Globe, cela dit, comment vous suivez l'édition 2024? Parce qu'on a encore 39 skippers en lice. Il y a une flotte qui s'étale là sur 5000 km. C'est une course très longue, vous le disiez. Est-ce que vous êtes encore dedans un peu ?
Oui, forcément. Alors c'est aussi important d'être dedans, parce que y a des tas de réponses auxquelles on va pas avoir, parce que mon bateau n'est plus en course. En revanche, on va observer les autres, observer les vitesses qu'ils peuvent atteindre en fonction du vent. Donc je continue à faire des routages, à regarder ce que font les autres pour que ça nous enrichisse pour la prochaine édition.
Vous avez des chouchous dans cette édition?
Oui, des copains, ouais. Romain Tanasio, qui est quelqu'un avec qui on partage pas mal de choses. Il a mon mât de remplacement d'ailleurs, ce qui lui a permis d'être au départ du Vendée Globe, puisqu'il a dématé peu de temps avant le départ. Arnaud Boissière, des gens avec qui j'entretiens une relation à terre un peu plus. Ouais.
Avec une course et des records de vitesse, avec des conditions météo très idéales, on a beaucoup de vent sur le Vendée Globe, une mer pas trop agitée, et à la tête de course, Sébastien Simon qui, lui, n'a cessé d'augmenter la distance parcourue en 24 heures en solitaire et qui va pulvériser le record de nautique réalisé en une journée. C'est aussi ça le Vendée Globe, c'est aller toujours plus vite parfois.
Ouais, comme dans tous les sports, on cherche toujours à battre les records. Là, faut pas oublier que c'est une course dans la durée, donc ils ont beaucoup donné là ces derniers 3 jours en allant très très vite. Globalement, ils ont des conditions de rêve depuis le départ. Les bateaux s'expriment. En revanche, ils vont rentrer dans des mers difficiles, les mers du Sud, et voilà, le mental va déjà être un peu atteint par le fait qu'ils ont beaucoup donné physiquement sur les vitesses et sur le bateau. Donc maintenant, il faut quand même qu'ils fassent attention.
Ouais, vous qui avez le goût, Maxime Sorel, pour les grandes aventures, même si vous avez été ici contraint, hélas, d'abandonner, celle que vous racontez dans votre livre avec un univers plus vertical, la haute altitude, sur le toit du monde, pour conjuguer là encore défis sportifs et combats ancrés. Je parlais du souffle tout à l'heure, et il y en a hélas trop qui en manquent aujourd'hui, qui sont atteints de mucoviscidose, et vous êtes parrain national de vaincre la mucoviscidose. Cet Everest, le plus haut sommet du monde, vous l'avez gravi aussi pour eux, pour tous ceux
qui
sont malades.
Ce projet, clairement, il est né parce que je suis parrain de cette association, et surtout parce que j'avais un voisin qui est décédé malheureusement aujourd'hui, mais qui était greffé des poumons, et un voisin quand j'étais tout petit. Donc j'ai été mêlé à cette maladie très jeune. On a, avec mes parents, œuvré pour cette association, et de par les projets à ampleur médiatique qu'on peut faire avec la course au large, j'ai décidé d'être un peu d'apposer le logo sur mon bateau, et l'association m'a demandé d'être parrain. Et en fait, ça a fait sens pour moi, et je me suis dit comment je peux mettre encore plus en lumière l'association. Là où on manque le plus d'oxygène, il faut savoir qu'au sommet de l'Everest, on a, avec une bouteille d'oxygène, 30% de capacité respiratoire, et c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Donc pour lui, c'est vraiment l'état ultime, il faut changer un organe pour qu'il puisse continuer à vivre. Et donc je voulais me mettre un peu dans la peau d'un patient, dans la limite de l'exercice bien sûr, mais vivre un petit peu de ce qu'il vit au quotidien, une maladie qu'il n'a pas choisie, alors que moi je me mets en difficulté pour essayer de comprendre et mieux l'expliquer.
Et ça commence très fort dans votre livre. J'ai fait 10 traversées de l'Atlantique, j'ai terminé le Vendée Globe, dites-vous. Cette curieuse anecdote me traverse l'esprit alors que je suis sur le toit du monde et que je ne vais pas tarder à mourir. Assis sur un caillou au milieu de la tempête, je suis à plus de 8000 mètres d'altitude et je n'ai plus d'oxygène. Espérance de vie 5 à 10 minutes dans le meilleur des cas. Vous avez peur à ce moment-là parce que vous tutoyez la mort en dehors de tutoyer ce sommet, et vous décrivez un peu plus tard la fameuse acclimatation, comment le corps, incroyable quand même, le corps humain s'adapte à des choses incroyables.
Ouais, alors ce qui est fou, c'est que le corps, au-delà de 7000 mètres d'altitude, déjà au-delà de 4000, il n'est pas fait pour vivre. Donc il tente de s'acclimater, de créer des globules rouges pour pouvoir capter l'oxygène rare qu'il n'y a pas forcément. au-delà de 7000 mètres, il arrête en fait d'essayer de s'acclimater parce qu'il sait qu'il n'y arrivera pas. Donc tout ce qu'on fait au-delà de 7000 mètres, eh ben, le corps fait que de se dégrader. Donc on a les bronches par l'air sec qui saignent, on crache du sang, mais c'est le cas pour tout le monde, hein, les sherpas aussi bien sûr.
Donc pardon, mais on risque sa vie quand on grimpe si haut?
Oui,
l'oxygène, malgré l'assistance.
On risque sa vie, on nous dit avant de partir que potentiellement on va être en contact avec la mort. Ok, on l'entend, on l'imagine pas, et effectivement on l'est.
Et vous le découvrez.
Et on le découvre, et c'est ça qui est assez fou et qui change quelqu'un en fait, clairement, parce qu'on change de comportement, on s'accroche un peu plus qu'avant sur les cordes fixes qui peuvent être mises sur cette montagne. Et c'est vrai que là, cette anecdote en fait... Ben, elle arrive sur la redescente. Souvent, on pense que l'arrivée, c'est au sommet, mais en fait, c'est une fois qu'on est en bas. Et il faut penser à redescendre parce que on est emmené par la gravité et donc c'est dur de descendre. Et en fait, mon flexible se débranche et je me retrouve sans oxygène, donc dans une capacité respiratoire avoisinant les 8 à 15%. Quoi.
Vous décrivez souvent, avec une juste comparaison, ce que vous avez enduré à la fois en faisant cette ascension de l'Everest et ce que vous avez vécu sur votre bateau. D'abord, il y a une forme de solitude quand même. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites on est très seul et puis quand on revient, bah, on est très acclamé, très attendu. Ça, c'est le choc un peu des environnements. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de très comparable en vérité entre ces deux défis?
Ben, les éléments, en fait. Il faut absolument rester humble face à ça et très vite on est ramené à nous-mêmes. C'est que on peut rien faire face à la nature et on se sent vite en danger en fait. Donc on essaye d'épouser les éléments qui nous arrivent plus que essayer de les dompter, parce que ça c'est clairement impossible. Et on a à la fois ça sur les océans, mais moi je me suis trouvé beaucoup plus en insécurité dans la montagne, parce que sur les océans, j'ai l'impression d'avoir mon refuge, si je peux comparer à la montagne, en permanence avec moi. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tant que mon bateau il flotte, j'ai mon refuge avec moi, alors que la montagne, ben, le pare-choc, c'est mon corps. Mmh. Et clairement, c'est très vite limité. Donc j'ai vraiment eu une sensation de danger permanent sur la montagne, avec des blocs de glace qui peuvent te tomber sur la tête à tout moment. Et ce que j'ai pas forcément eu sur les océans.
Ouais. Avec la dernière portion du trajet pour l'Everest, la montagne que vous décrivez comme étant décourageante au possible, c'est ce que vous dites. On a raison de comparer, au fond, avec ce terme, justement, le vent des globes à l'Everest des mers.
Oui, parce que forcément, dans la tête des gens, quand on dit à chacun son Everest, c'est, voilà, c'est à chacun son but un peu ultime, le fait que ce soit le plus grand, le plus haut sommet du monde. En revanche, le Vendée Globe, c'est bien plus dur qu'un monter un Everest. C'est peut-être moins dangereux pour ce que j'en ai vécu en tout cas, mais c'est bien plus dur. C'est toute discipline confondue, il n'y a pas plus long que le Vendée Globe. Rester 2 mois et demi ou 3 mois en mer seul face à des tas de problèmes qui t'arrivent tous les jours, voilà, c'est ça la grosse difficulté du Vendée Globe, c'est toujours trouver l'énergie pour continuer à avancer. Quoi.
C'est très physique, il y a le mental qui est capital évidemment, puisque vous décrivez de très intéressant aussi, c'est qu'on fait des bateaux qui volent sur l'eau maintenant, une technicité à toute épreuve, des matériaux incroyables, mais on reste dans une rusticité sur le bateau. Vous décrivez les conditions quand même très basiques, à tout le moins, de la vie d'un skipper sur le Vendée Globe pour un tour du monde.
Ouais. Aussi. Mais j'ai pour habitude de dire que souvent c'est la course au large, c'est un mix entre la NASA et le cirque Pinder, quoi. C'est que on développe des tas de logiciels hyper complexes, des capteurs très complexes, et puis à la fin ça marche pas et on finit par prendre un marteau et taper dessus et hop ça repart. Et donc c'est vrai que c'est fou ces bateaux, c'est que à terre le bateau il part, il est à 100% et il fait que de se dégrader tout du long du Vendée Globe, et donc bah il faut réapprendre à naviguer avec ce bateau handicapé, et du coup on finit avec un bateau qui est à 50 ou 30% de ses capacités du départ. Donc c'est vrai qu'il faut garder le sens marin et ça reste une vraie aventure, même si on ajoute de la technologie.
C'est le bateau aussi qui illustre justement cette fragilité, cette vulnérabilité face aux éléments. Il vous dit beaucoup, hein, de notre petitesse.
Ouais, c'est ça, c'est un bateau, il a un langage, il nous parle et on a besoin de l'écouter. Et moi, j'ai souvenir d'avoir, sur le dernier Vendée Globe en 2020, d'être en pleine interview avec des médias et en fait avoir du mal à répondre parce que j'ai besoin de souffrir avec le bateau, j'ai besoin de vivre avec lui. Et donc, quand il souffre, ben, j'ai besoin de le vivre à 100%. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à se déconnecter au bateau, quoi. C'est vraiment comme si c'est l'alter ego avec qui on doit faire corps, quoi.
Maxime Sorel, vous dont le bateau arrive à Concarneau, vous, l'enfant de Cancale, qui dit dans ce livre, notamment mon double Everest du Vendée Globe au toit du monde, vivez vos rêves. Alors vous nous avez donné en préambule aussi la raison de cet engagement, cette cause pour vaincre la mucoviscidose. Votre rêve, c'est quoi? Votre prochain rêve peut-être, si on se projette encore un peu?
Dès on avait le rêve de réussir à finir un tour du monde avec ce dragon des océans. Le dragon, c'est le symbole du souffle, un symbole d'espoir. Malheureusement, c'est un échec, mais il n'y a pas de victoire sans échec. Donc le prochain rêve, c'est de réussir à finir ce Vendée Globe avec ce bateau. Et après, j'ai des tas de projets dans la tête de façon à réussir aussi à allier le sport et la santé. On se rend compte qu'à travers ces projets, on peut communiquer sur des belles valeurs. Et c'est vrai que la santé, je m'en soucie beaucoup. On a vu ce que ça a fait avec l'effet Jeux Olympiques. Et c'est vrai que parler de la santé par le sport, mettre des choses en place, juste bouger, changer un peu son alimentation, ça permet de ralentir des maladies ou de faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Donc voilà, le rêve, c'est d'avoir un beau projet avec cette communication.
Merci beaucoup Maxime Sorel de votre présence ici sur France Bleu. Vous qui avez été contraint d'abandonner ce Vendée Globe, mais qui avez beaucoup de choses à dire justement sur l'après, en pensée aussi avec les skippers qui concourent toujours. Merci beaucoup Maxime Sorel. Mon double Everest chez Gallimard, du Vendée Globe au toit du monde. Voilà votre double défi et votre message d'espoir. Merci et à tout de suite sur France Bleu.
La Star Academy, c'est reparti pour une nouvelle saison. Pour écouter les confidences des candidats, découvrez le podcast Génération Star Academy. Génération Star Academy, un podcast de France Bleu à écouter chaque lundi, disponible sur l'application ICI, ICI ou la plateforme Radio France. Ici, c'est France Bleu.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Vous écoutez France Bleu, il est 13h30, laissez-vous glisser doucement dans nos après-midi en musique. On vous raconte l'actualité près de chez vous, sur votre grand média de proximité. Et je vous dis à demain, 13h, pour Ma France.
Actu locale, musique et bonne humeur,
c'est ici, sur France Bleu Paris.
Salut tout le monde, Sophie Nolvaux, jusqu'à 16h avec vous pour partager un nouvel après-midi musical sur France Bleu Paris. J'espère que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette fin de semaine, un jeudi sous le soleil qui nous rappelle un certain été indien.
On ira où tu voudras quand tu voudras.
Vous l'avez compris, Joe Dassin nous arrive dans quelques minutes sur France Bleu Paris. Ce sera juste derrière, au travers de Zao de Sagazan, qui est en pleine tournée d'ailleurs en ce moment et qui sera à l'Olympia d'ailleurs. C'est 2 et 3 décembre. Et puis on démarre cette demi-heure avec Phil Collins, You Can't Hurry Love, sur France Bleu Paris.
ici.
Ici,
c'est France Bleu Paris.
Des choses controversons au travers, en vers ou bien en prose. Regardez-moi de travers, je prendrai la pose. Moi je les aime mes travers, donnez les vôtres, j'en ferai quelque chose. Chacun s'installe des choses, traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face. Fini le déni, fini les manières, blablabla. Et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers. Une histoire de travers. Controverse tes travers, envers et puis en prose. Découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose. En comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Actu locale, musique et bonne humeur,
c'est ici,
ici,
sur France Bleu Paris.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Paris 13h40, on écoutait Joe Dassin avec l'été indien. Ici l'infotrafic en temps réel sur France Bleu Paris. 117 km de bouchons cumulés à vous signaler en ce moment en Ile-de-France. Et attention à cet accident survenu sur l'A1 dans le sens Paris-Province à hauteur du Bourget. Deux voitures sont impliquées sur quatre voies. Une voie est fermée à gauche. Ça ralentit donc 16 minutes entre la porte de la Chapelle et la Courneuve. Attention, coup de frein aussi au nord-est de la capitale sur l'A104 de Mitry-Mory vers Villeparisis. 13 minutes au lieu des 6 minutes habituelles pour parcourir les 5 km. Ça freine aussi au sud-est de la capitale, sur l'A6B de Vissou vers la porte d'Italie. Là, vous comptez 27 minutes, donc deux fois le temps habituel. Bien sûr, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 30 10 10. On fait le point ensemble toutes les 15 minutes sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, numéro 1 sur l'infotrafic.
La suite, c'est la musique évidemment, pour passer un bel après-midi. Bel après-midi ensoleillé, hein. Quoi que vous fassiez, eh bien, profitez de ces rayons de soleil qui font du bien, que vous soyez au travail, à la maison, pour une petite après-midi de repos, ou encore sur la route, c'est toujours plus agréable. Voici Chris Rea, avec un souvenir de 1985, sans doute l'un de ses plus grands succès. Joséphine, sur France Bleu Paris.
Of you, tears on my pillow, but I will come through. Josephine, I send you all my love, and every single step I take.
Still fly.
16h45, on écoutait Christopher, Chris Rea. Il est d'origine anglaise, il est né en Angleterre, dans le Yorkshire du Nord, mais d'origine italienne et irlandaise. Et on écoutait ce titre qu'on adore, Joséphine, sur France Bleu Paris. Un petit peu avant 14h, on va se balader dans les coulisses du château de Versailles, et plus précisément à l'atelier tapisserie d'ameublement. Ce sera en compagnie de Muriel Jourdan, et ce sera après Michael Field et Claudio Capeo sur France Bleu Paris. À tout de suite.
À 19h toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu, dans Décibel.
Idole !
Émilie Mazoyer.
Ah oui, immense idole ce soir, invité de Décibel. Étienne Dao vient vous présenter en avant-première son nouvel album, Étienne Live.
Décibel, seulement sur France Bleu, chaque soir dès 19h.
Ici, c'est France Bleu Paris.
Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune, il te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Mais tu dois t'en aller. Passé l'amour, ouais, passé le charme. Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a faites. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller.
C'est France Bleu Paris.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Follow
France Bleu Paris, on écoutait Mike Oldfield avec Moonlight Shadow, énorme succès commercial et international d'ailleurs dans les années 80, qui fait référence au film Houdini, le grand magicien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était avec Tony Curtis. Et en parlant de magie, eh bien il est l'heure de vous emmener dans les Yvelines, dans un endroit qui fait rêver. Depuis lundi, Muriel Jourdan nous ouvre les portes d'un endroit ultra secret, comme à son habitude d'ailleurs, l'atelier tapisserie du château de Versailles. On parle tissu, on parle matière, ameublement, mais pas n'importe lequel, dans Accès Privé sur France Bleu Paris.
Ils sont doreurs, ébénistes, tapissiers et leur quotidien consiste à restaurer le mobilier du château de Versailles et à transmettre leur savoir-faire à de jeunes apprentis. C'est le cas de Laurent, tapissier d'ameublement depuis 27 ans.
Laurent, 27 ans de métier, qui met ses lunettes.
Qu'il a que depuis le mois de mars, quoi. Avant, il avait une vue de dingue et puis là, tout d'un coup, paf, presbytie.
Bah, il faut une bonne vue là pour faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
J'avais laissé ça, mais là, je vais couper. Là, bah, j'assemble à la main. De lait de tissu. Alors pourquoi je les assemble ? Parce qu'en fait, les belles soieries sont en petite largeur. Donc là, c'est une laisse de 56. Et donc ça passe pas en largeur sur l'écran et c'est souvent le cas même sur certains sièges. Bah, pour que ça passe, il faut délaisser une autre hauteur du même tissu et remettre au raccord. C'est-à-dire remettre le motif en face, en miroir, pour assembler, pour que ça passe en largeur.
Les ateliers sont répartis dans le château pour les tapissiers et dans la petite écurie pour les doreurs et les ébénistes. Chaque jour, Laurent est en tête-à-tête avec des outils, avec des matières qu'il connaît par cœur. Pourtant, aucune journée ne se ressemble. Même si ses gestes sont habituels, il s'adapte toujours aux particularités des objets qu'il restaure.
Forcément, quand on est un peu comme un gosse, quand on a des sièges comme cette paire de fauteuils Louis XVI qui se trouvent sur la table, qui font partie d'un ensemble de quatre, qui vont se retrouver à terme dans l'appartement de Mme du Barry, ce sont des très belles pièces et on a plaisir à leur redonner leur aspect d'origine, leur restituer ce qu'ils pouvaient avoir à leur époque, donc retravailler les mêmes matières premières, selon les mêmes techniques. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend, on continue de se former, même avec les recherches qui sont faites par la conservation et que nous concrétisons en fait.
Quelle est l'erreur à ne surtout pas faire quand on manipule comme ça, par exemple, du mobilier du 18e ?
Alors déjà, il faut comprendre ses lacunes, ses faiblesses. Donc quand un meuble nous arrive, de toute façon, avant de l'aborder, on s'est concerté avec les autres métiers, on s'est concerté avec les conservateurs, il y a eu un constat d'état de fait, donc on sait ce qu'a subi le siège, on sait tout et on doit aussi transmettre tout ce que nous on a perçu et tout ce qu'on sait de l'objet sur un rapport qu'on va fournir à la conservation, à la régie, pour que les générations futures, quand ils vont aborder eux-mêmes l'objet, sachent là où il y a une fragilité, s'il y a un pied qui a été cassé et qui a été... qui a été recollé, enfin qu'il le sache avant de manipuler le siège.
Et on retrouvera Accès Privé, Muriel Jourdan et Laurent d'ailleurs demain pour la suite de ces coulisses du château de Versailles. Vous pouvez retrouver Accès Privé sur l'application ici ou encore sur francebleu.fr. Allez, tout de suite, on accueille Christophe Willem avec Double Jeu, extrait de l'album Inventaire, le tout premier album de Christophe Willem qui, à l'époque, vient de sortir de l'émission Nouvelle Star. Bon jeudi après-midi sur France Bleu Paris.
suis l'un et l'autre, double jeu. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre.
Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux.
C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux?
Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux.
Après tout, qu'est-ce que j'y peux? Après tout, qu'est-ce que j'y peux?
Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux.
Clairement dans le showbiz maintenant, Christophe Willem qui nous chantait ce titre en 2007, tout juste sorti de son émission Nouvelle Star, et ça lui est plutôt pas mal réussi. On écoutait Double Jeu à l'instant sur France Bleu Paris.
France Bleu, connecté à notre région. Ici c'est France Bleu Paris.
Excellent jeudi 20.